Délivrez-vous. Une émission littéraire présentée par Claudine Bugat pour ceux qui aiment lire et ceux qui n'ont pas le temps.
C'est de zèle.
Bonjour à toutes et tous. Pour ceux qui sont, dirais-je, habitué à la mission Délivrez-vous pour ces deux ailes, peut-être le savez-vous, chères auditrices et auditeurs, je suis une fan, une inconsidérablement attachée à Napoléon Bonaparte et à ce premier empire. J'aime l'histoire de l'homme et puis de cette période de l'histoire. Donc tous les livres qui me passent sous la main et qui parlent de ce grand homme et de ce moment de notre histoire me passionnent. J'avais l'habitude de parfois faire des émissions avec sans doute... avec un historien que vous avez déjà entendu, Thierry Lintz, mais là, j'ai découvert également un historien, un passionné de ce moment de notre histoire. Et au travers de ce livre, eh bien, j'ai découvert des choses, comme quoi c'est toujours possible de découvrir des choses avec Napoléon Bonaparte. Et entre autres là, eh bien, ça va être les 12 morts de Napoléon Bonaparte aux éditions Passé Composé. Pour ce faire, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui David Chanterane. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté mon invitation pour Délivrez-vous pour ces deux ailes pour votre livre, je disais, Les 12 morts de Napoléon aux éditions Passé Composé. Alors, les 12 morts de Napoléon, c'est pas les 12 morts qu'il a tués, c'est les 12 morts auxquels il a échappé. Nous allons en parler avec vous. Mais déjà, on va un petit peu parler de David Chanterane. Qui êtes-vous? Alors, historien, hein, disais-je?
C'est ça, historien spécialisé sur l'histoire de la Révolution, du Consulat et de l'Empire.
Oui.
J'ai publié à peu près une quarantaine d'ouvrages seuls ou à plusieurs en colloque ou en ouvrage collectif.
Oui.
Mais seuls une dizaine. Et en particulier, donc, ces 12 morts de Napoléon sont consacrés effectivement au moment où Napoléon a failli mourir, où il a failli perdre la vie à différentes reprises de sa naissance, évidemment, jusqu'à Sainte-Hélène en 1821.
Oui. Alors, ce qui est étonnant, c'est que, comme je le disais, je connais, j'ai la prétention de dire, je connais bien l'histoire de Napoléon. Il y a certains faits que je connaissais un peu, mais alors d'autres, mais alors pas du tout. Donc, c'est très bien parce que votre livre va nous faire découvrir tout ça. Vous allez nous expliquer comment vous avez découvert, retraité tout ça, votre travail. Et moi, il y a quelque chose qui m'a beaucoup émue, parce que je ne le savais pas. Ça a été les 5 derniers mots de Napoléon Bonaparte sur son lit de mort à Sainte-Hélène. Il y a eu France, mon fils, armée, et j'oublie le cinquième.
Tête, c'est ça.
Et ça m'a beaucoup... Alors, nous sommes en avril 1821, alors... J'ai voulu aussi faire ce livre parce que dans quelques mois, quelques semaines, ce sera le bicentenaire de sa mort, hein, 15 avril 1821. Donc c'était aussi important de parler de lui. Ça m'a beaucoup émue parce que je ne le savais pas. Dites-moi, comment vous avez construit votre livre, vos recherches, la genèse de ce livre?
Alors ce livre, effectivement, comme vous disiez, comme on arrive bientôt au bicentenaire de la mort le 5 mai prochain,
oui.
Napoléon, j'ai voulu rappeler un petit peu ses moments passés à Sainte-Hélène. Et donc le livre, il est construit de cette manière, c'est-à-dire que les chapitres s'égrènent sur les épisodes de Sainte-Hélène,
oui.
Comment il est arrivé sur l'île, les moments de doute et de confrontation avec les Britanniques.
Oui.
Et parallèlement à cette chronologie finalement des événements jusqu'à la mort, donc en mai 1821,
oui.
Et bien pour chaque chapitre, j'interromps finalement la présentation chronologique pour faire un rappel des événements précédents, et pour comprendre dans quelle psychologie il se trouve à ce moment-là. Et donc, les chapitres, il y en a 12, hein, comme
12,
le titre l'indique,
oui.
Les 12 morts de Napoléon,
oui.
Ces chapitres permettent de comprendre qu'il a pu mourir au moment de sa naissance. Sa mère a accouché dans des conditions un peu particulières et,
oui.
Et assez difficiles.
Très difficile.
Le 15 août 1769.
Oui.
Et chaque moment important de sa vie sont l'occasion donc de rappel, de retour en arrière. J'aime pas trop le terme de flashback, mais c'est un peu l'esprit, c'est-à-dire comme
ouais.
Un film
mm-hmm.
où vous passez le moment de la narration et le flashback vous permet de redécouvrir un événement qui permet de comprendre et de construire la psychologie de ce personnage,
oui.
En l'occurrence Napoléon.
Napoléon. Et on va en parler, on va l'égrener tout au long de cette émission. Mais j'ai senti que quand vous nous énumérez ces 5 mots sur son lit de mort, quelques heures avant sa mort, J'ai eu l'impression que ça vous avait ému, que ça vous touchait, et qu'en même temps c'était une énigme, et comme tout historien certainement, vous vouliez comprendre. Comment vous avez analysé la chose de ces cinq derniers mots? Comment vous avez tenté de les comprendre? Comment est-ce qu'on peut les analyser?
Alors on peut les analyser justement. Alors France, c'est assez évident.
Oui.
Pourquoi la France alors que on sait que la France a eu pour protectorat, si l'on peut dire, si l'on dit un mot moderne, la Corse de l'époque, en 1768, c'est-à-dire un an juste avant sa naissance.
Sa naissance, 15 août 1769, sa
c'est
naissance.
C'est ça. Donc, si Napoléon était né un an plus tôt, il eût été encore génois, puisque c'était Gênes qui avait la Corse sous sa protection.
Oui.
Donc, France, c'est le terme quand même assez important.
Oui.
C'est le lieu, c'est le pays qui lui a apporté ses premières instructions.
Oui.
Il était à l'école à Brienne.
À Brienne-le-Château, oui,
tout à fait. Donc, je suis conservateur. Et puis, bien sûr... conservateur du musée. Puis,
ah, très bien.
Sûr, oui, et ensuite à Paris, puisqu'il a fait ses écoles,
l'école militaire de Paris.
Voilà. Mmh. Et puis...
Mon fils, l'Aiglon.
Mon fils, c'est l'héritier.
C'est l'Aiglon.
C'est l'Aiglon, que tout le monde connaît, avec le texte fameux de la pièce de théâtre de Rostand.
Oui.
Et enfin, tête et armée, eh bien, ça résume finalement sa vie.
Oui.
C'est-à-dire prendre la tête des événements, prendre la tête de ses...
La tête d'une armée, oui.
Et la tête de son armée, parce qu'il est militaire, de formation et bien sûr d'exercice. Donc, c'est tout ça réuni. Il fallait retrouver justement en quoi cette énigme et ces derniers mots qu'il prononce résument finalement sa vie et ses dernières pensées. Et donc, le livre est construit aussi pour démêler le vrai du faux et trouver un petit peu le lien avec cette énigme qui nous conduit tout au long du livre.
Tout au long du livre, oui. Alors, on s'aperçoit qu'il a fait face quand même à un certain nombre d'événements, qu'il a échappé effectivement un certain nombre de fois à la mort, parfois de justesse, parfois indirectement. Et ce qui est curieux, c'est que quand on parle de la campagne d'Égypte en 1799, une partie de son armée a été décimée par la peste. Et alors, comme nous sommes en pleine pandémie, je me suis dit, mon Dieu, nous on pleure tous les jours, mais la peste à ce moment-là, c'était autre chose aussi, c'était des milliers de morts.
Exactement. Et cette peste dont on sait qu'il y a encore quelques années, lorsqu'on l'étudiait, elle nous paraissait tellement, tellement lointaine, comme vous le dites très justement.
Oui.
Et là, il y a une proximité à la fois d'empathie avec les personnes qui ont été touchées, et surtout le fait que Napoléon se conduise et se dirige vers ses soldats. Alors, il y a une part de communication dans tout cela,
bien
mais
sûr.
Il y a aussi une empathie aussi envers eux, parce qu'il se dit que non seulement ils partagent leur sort, je rappelle que nous sommes dans une période où les généraux à l'époque de la Révolution et de l'Empire, les généraux participent directement au combat. Ce ne sont pas des généraux d'ancien régime qui lancent leurs troupes et
qui sont en haut de la colline et qui regardent ce qui se passe. Oui, tout à fait.
Exactement.
Oui.
Exactement. Et donc là, la peste, lorsqu'elle décime ses armées, eh bien, il est non seulement touché personnellement parce qu'il connaît la plupart de ses hommes, mais aussi parce que il en partage les souffrances. Et donc, c'est pour cette raison qu'il souhaite absolument donner le meilleur de ses chirurgiens, de ses médecins, et surtout s'enquérir de leur santé directement.
Oui. Mais tout au long de sa vie, il a toujours été... Enfin, moi, au travers des lectures de son histoire, j'ai toujours l'impression qu'il était très attaché à ses hommes, à son armée, et les hommes lui ont bien rendu, d'une façon générale, sur tous les champs de bataille.
Oui, pour cette raison-là, parce que c'était tout à fait nouveau dans l'esprit de cette génération, de participer directement, et puis aussi parce que, comme je vous le disais, il a été formé dans une école militaire.
Oui,
il était destiné
fait.
À une époque où c'est encore le roi qui règne sur la France, Louis XVI en l'occurrence.
Oui.
Enfin, Louis XV quand il arrive à Brienne et puis ensuite Louis XVI. Il se considère finalement comme étant destiné à devenir peut-être un jour colonel. Mais c'est vraiment la limite absolue pour un officier de cette époque. Au-delà, les postes sont réservés aux meilleures familles et maréchal n'est destiné qu'aux grandes familles.
Aux
grandes familles. Donc là, il a été formé pour cela, et d'une certaine manière, il comprend même que son destin se joue aussi avec cette proximité. Et alors, il a eu des mots parfois un peu malheureux, comme à Hello, une bataille plus tard, dans les années 1807, où il dira une fête à Paris effacera tout cela. Donc on s'est dit, il considère finalement les morts comme étant chose négligeable. En fait, pas du tout. Pas du tout, parce que il le dit dans le sens où une information chasse l'autre. Et on en connaît aujourd'hui la saveur. Hein.
Oui, tout à fait.
Quand on voit les drames que nous connaissons, ben, imaginons que dans 6 mois, tout cela soit derrière nous parce que la vaccination parvienne enfin à juguler la pandémie. Vous verrez que dans 6 mois, on s'inquiétera de choses peut-être banales par rapport à aujourd'hui.
Sans
c'est exactement la même chose. C'est ce que voulait dire Napoléon.
C'est vrai. Alors, il a échappé aussi, et je ne savais pas, et je trouve que ça nous rapproche aussi un petit peu de ce que nous pouvons vivre, des différents attentats que nous avons pu vivre. Il a échappé à un attentat à la bombe en 1800, la veille de Noël, à Paris aussi.
Oui.
Et je me suis dit, mais décidément, il y a beaucoup de choses qui nous rapprochent de notre époque d'aujourd'hui.
Comme... C'est exactement ça.
C'est incroyable.
C'est la première fois, effectivement, qu'un attentat à la bombe est mis en place par un groupe, en l'occurrence un groupe terroriste, mais alors il ne faut pas réutiliser ce mot, c'est un peu anachronique, mais ce sont des Jacobins, se dit-on, mais en fait finalement on se rend compte que ce sont des royalistes au contraire qui ont organisé l'opération, et c'est la première voiture piégée, alors c'est une charrette, hein. Ça ne va pas exploser au bon moment lorsque Napoléon arrive, mais il en réchappe de très peu, et finalement ça évoque plus près de nous, et bien évidemment Kennedy ou le général de Gaulle qui avait échappé à l'attentat du petit Clamart, ben voilà, c'est exactement le même esprit. Et Napoléon, en cela, d'une certaine manière encore, est assez moderne.
Oui, c'est vrai. Mais alors, vous savez, parallèlement à ça, dans les rues de Paris, bien d'autres se sont fait assassiner. Mais j'ai pensé à Henri IV, qui, en mai 1610, s'est fait aussi poignarder par Ravaillac. Lui, malheureusement, voilà. Il y a des choses comme ça dans l'histoire un petit peu récurrentes. Alors, notre pauvre Henri IV, lui, n'y a malheureusement pas échappé. Mais comme quoi, dans l'histoire, on peut s'approprier du passé, on s'approprie des choses dans le présent, parce que finalement, les choses reviennent comme en boomerang.
Alors, Et vous avez raison en disant Ravaillac, parce que effectivement Henri IV donc va mourir sous le poignard de Ravaillac. Louis XV, un certain Damien avait tenté aussi de l'assassiner, il s'en est fallu de peu. Mais la nouveauté avec Napoléon, c'est que ce soit une voiture piégée. Un carrosse, une charrette piégée.
Alors il a eu droit aussi à l'attaque au couteau, dirais-je. Ça nous rapproche aussi de notre histoire à Vienne, hein, un homme aussi tenté.
Un étudiant saxon. Qui voulait libérer son... l'Allemagne du joug des Français.
Alors il a aussi reçu une balle perdue.
C'est ça, pendant la campagne de 1809.
Voilà, la même année. 1809 n'a pas été une bonne année pour
lui. Oui, mais il est au combat, comme je vous le disais. Il est auprès de ses soldats, en plein milieu de la bataille. Et il y a une balle tirée par un tyrolien, un autrichien, donc en face, qui l'atteint au talon. Et le symbole même, c'est le Achille qui était à la fois grandiose, héroïque et intouchable. Eh bien, Achille est fragile de son talon. Et c'est exactement ce qui va subvenir à ce moment-là.
Oui. Et puis, cette malheureuse bataille de Waterloo, où là, ce sont ses soldats qui vont le sauver.
La garde, effectivement, veille sur lui. L'entoure, c'est le dernier carré.
La garde ne plie, mais ne se rend pas.
Ne se rend pas, exactement, avec une fameuse phrase, « Messieurs les Anglais, tirez les premiers ». Enfin, le fameux mot de Cambronne, hein, qu'on ne citera pas pour les oreilles de chasse. Mais voilà, Napoléon, c'est aussi tout un ensemble de phrases, d'événements, de situations qui nous parlent encore aujourd'hui et qui sont encore beaucoup plus actuelles, finalement, qu'on l'imagine.
Oui. Comment expliquez-vous, vous, l'historien, je dirais, proche de l'homme, puisque quand on est conservateur Brienne-le-Château, on ne peut en être que proche, bien connaître l'histoire. Comment expliquez-vous qu'après 200 ans, après sa disparition, ce soit toujours autant de... Il déclenche toujours autant, alors soit de l'antagonisme. En fait, Napoléon Bonaparte, on l'aime ou on ne l'aime pas.
C'est ça, il n'est jamais indifférent.
C'est incroyable.
Pour trois raisons à ça. La première, c'est que ça n'est pas si éloigné que ça de nous, puisque 200 ans, finalement,
200 ans, c'est rien à l'histoire.
La deuxième, c'est que c'est le dernier personnage aussi important qui n'est pas connu la photographie. C'est-à-dire qu'en fait, il y a encore une part d'imaginaire. Peut-être que si les photos existaient, déjà à son époque, les choses étaient totalement différentes. Sait avec Louis-Philippe et Napoléon III. Et donc, président, voilà. Donc, le tableau, la gravure, laisse encore une part d'imaginaire. Et puis, surtout parce que, comme je vous le disais, Napoléon, ce sont 200 réformes, alors ou créations, qui parfois sont critiquables, hein, évidemment. Hein, il y a bien sûr le rétablissement de l'esclavage, ou du moins la prolongation de l'esclavage en 1802.
1802,
une tâche sur son, bien sûr sur son bilan, oui. Mais à côté de cela, ce sont quand même la Légion d'honneur, le
et nous avons perdu la Louisiane, et nous avons perdu la Louisiane à cause de lui aussi, hein.
Tout à fait, il a vendu la Louisiane.
Ça, je lui en veux beaucoup, hein. Ça, je lui en veux beaucoup.
Les Américains lui en veulent pas du tout, au contraire, ils disent que l'unité des États-Unis a été rendue possible par cet achat de la Louisiane.
Par cet achat de la Louisiane, oui, c'est vrai. Nous allons faire une petite pause musicale, pas achetée, nous vous l'offrons gratuitement, chères auditrices et auditeurs, et nous vous retrouvons tout de suite après. Nous nous retrouvons sur l'émission Délivrez-vous pour ces deux ailes, pour le livre de David Chantran, Les 12 morts de Napoléon, aux éditions Passé Composé. Alors, on disait aussi, on l'aime ou on l'aime pas, c'est un personnage qui déploie toujours tout un tas de paroles, de faits, chacun y va de son petit mot. Durant ces 12 morts aussi, on s'aperçoit aussi, ça en fait aussi un personnage de légende, parce qu'il est toujours passé à côté du pire, on vient d'en parler avec ces différentes... Alors, il y a aussi eu un moment assez terrible que l'on connaît peut-être pas non plus, c'est la tentative de suicide à Fontainebleau aussi.
Exactement.
En 1814.
En 1814, il vient d'abdiquer pour la première fois, acculé par les troupes coalisées contre lui, autrichiens, prussiens, russes et bientôt les britanniques.
Oui. Tous ceux qui l'ont combattu.
Et qui combattent surtout l'idée de la République. Il faut se rendre compte que peut-être ça nous paraît étonnant, mais Napoléon est empereur des Français et il se voit confier ce titre-là par la République française.
Complètement.
Donc, c'est
2 décembre 1804, pour rappeler son couronnement. Hein.
Effectivement, le couronnement à Paris et la proclamation de l'Empire, six mois plus tôt, le 18 mai 1804. Mmh. Et à ce moment-là encore, en 1804, le calendrier est encore le calendrier républicain. Vous savez, les mois de primaire, de vendémiaire... Floréal, etc. Mmh. Donc, le calendrier républicain, l'idée même républicaine, perdure. Et cette idée de liberté, d'égalité, de fraternité, bien sûr, heurte les monarchies qui entourent la France de l'époque et ne souhaitent qu'une chose, c'est continuer les combats depuis Valmy, continuer les combats contre la France pour qu'elle elle mette un genou à terre. Et Napoléon, finalement, va incarner cette révolution, la poursuivre et donner naissance à un texte fondateur qui est le Code civil, c'est-à-dire l'égalité de tous devant la loi, quelle que soit votre naissance. Et en cela, il est attaqué. Et donc, on le combat régulièrement. Alors, il a une ambition peut-être un peu trop dévorante vers la Russie ou l'Espagne.
Ah, c'est vrai que la campagne de Russie, c'est l'erreur.
L'erreur terrible.
Oui, oui.
Avant lui et après lui, d'autres feront la même chose.
Oui.
Mais dans un esprit différent. C'est-à-dire que là, il cherche absolument à installer le Code civil et donc l'égalité pour tous en Europe. Et pas du tout pour une idée de destruction, d'anéantissement, de quoi que ce soit. Mais son ambition est un peu dévorante parce qu'il le veut pour un pouvoir personnel. Et donc, en 1814, battu successivement par ses troupes coalisées, eh bien, il abdique le 6 avril 1814. Et une semaine plus tard, voyant qu'il n'y a plus d'espoir, voyant que son fils L'aiglon qu'il a eu avec Marie-Louise lors de son deuxième mariage, Marie-Louise d'Autriche,
va lui être retiré, il s'en va.
Lui a été retiré, effectivement. Il se dit qu'il n'a plus d'espoir. Et donc, en geste un peu à l'antique, d'une certaine manière, il décide de se suicider avec une fiole de poison qu'il portait à ses côtés et qu'il avait emporté avec lui, notamment en Russie. Mais 2 ans plus tard, ce poison, finalement, 2 ans après la campagne de Russie, le poison s'est un peu éventé. Et donc, il en est quitte uniquement pour un lavement d'estomac.
Ouais. Il est très malade, mais sans plus, quoi. Voilà.
Mais il survit.
Il survit, oui. Mais vous, l'historien, vous le savez, on disait, il a échappé à un tas de choses, mais certains aussi, et justement de ceux qui avaient peur de cette soi-disant république, ont souvent fomenté des complots contre lui, profitant de son absence de Paris quand il était sur les champs de bataille. Il y a eu bon nombre tout cela.
Tout à fait, c'est dans l'air du temps. C'est-à-dire que les coups d'État, depuis même la fin de l'Ancien Régime, je vous rappelle, les frondes parlementaires déjà ont déjà longtemps agité la France, mais ensuite des coups d'État, au temps de la Révolution, il y en a eu un certain nombre. On se souvient de Floréal, justement, et puis le coup d'État de Brumaire,
bien sûr.
Mais il y en a eu un certain nombre, très important. On se souvient de la mort de Robespierre en Thermidor. Tout ça sont des coups d'État, finalement. Et donc, c'est dans cette tradition que d'autres généraux vont tenter d'abattre Napoléon et de prendre le pouvoir toujours pour la République. C'est ce qui va être fait en 1812 par un certain général Mallet qui profite du départ de Napoléon vers la Russie pour essayer de soulever le peuple et de dire Napoléon est mort, ça y est, il invente une fausse nouvelle, une fausse rumeur. Et il dit Napoléon est mort, il faut que vous me confiez maintenant les rênes du pouvoir. Et ça a failli réussir.
Oui, ça a failli réussir. Mais néanmoins, quand vous pensez à cette histoire de ce petit Corse, c'est plutôt affectueux de ma part, ce petit Corse, caporal, qui devient empereur des Français, qui change quand même la France, sans oublier aussi, pour rappeler aux auditrices, auditeurs, que beaucoup de choses aujourd'hui administratives découlent de Bonaparte. Partie de sa petite Corse, aujourd'hui, la France, quelque part, il y a beaucoup de choses napoléoniennes.
Et puis, il rend l'impossible possible. Oui. Il le dira lui-même, d'ailleurs, impossible n'est pas français. Mmh. Lorsqu'il naît, je vous le disais, son horizon est finalement assez bouché.
Oui.
Mais il va parvenir à 35 ans, devenir empereur des Français.
Oui.
Et à montrer justement qu'avec l'abnégation, le travail, la volonté, un peu de chance parfois,
oui.
Eh bien, on peut parvenir à des choses extraordinaires. Ce qui, oui. Bon, d'ailleurs, ce qui explique que lorsque un capitaine d'industrie aujourd'hui ou une personnalité importante, on dit c'est le Napoléon du cinéma,
oui.
Le Napoléon de l'industrie,
c'est vrai.
Etc. Parce qu'il a rendu possible une chose qui paraissait totalement étrange ou incongrue à son époque.
Est-ce que cela vous fait frémir, David Chantrel, quand on dit que certains disent que c'était un dictateur?
Ah oui, parce que dans l'esprit du mot dictateur, on pense tout de suite au dictateur du XXe siècle.
Oui.
Et dans l'esprit de Napoléon, je vous l'ai dit, hein, je le répète, on peut parler de son bilan et il y a des choses qui sont détestables.
Bien sûr.
Mais il n'y a pas d'esprit ni de destruction, ni de volonté de tuerie en masse, ni surtout de racisme, ni de ce genre de choses. Il n'est pas du tout dans cet esprit-là. En fait, le terme de dictateur, c'est plutôt, il faut le penser dans l'esprit de l'Antiquité, c'est-à-dire une dictature de salut public, mm-hmm. C'est-à-dire lorsque la République ou un régime quel qu'il soit est dans une situation difficile, on fait appel soit à un législateur, soit à un militaire, mm-hmm. Ce qu'il était d'ailleurs, les deux,
oui,
un peu des
tout
deux,
fait, tout à fait, oui.
Et on lui confie les rênes du pouvoir pour dire nettoyez les écuries d'Augias et faites en sorte que finalement le pays aille mieux. Ce qu'il va faire en fait, en 200 réformes, on en est aujourd'hui les dépositaires et les héritiers.
Oui. Ce qu'il a beaucoup aidé aussi, je vous serai, je pense, d'accord avec ça, c'est qu'il y a eu une certaine Joséphine Beauharnais qui lui a fait découvrir le monde de la culture, qui a amené à lui une certaine, une certaine population française d'artistes. C'était pas du tout son truc, mais malgré tout, ça l'a peut-être aussi aidé pour certaines choses.
Énormément, oui. Puisqu'elle est, elle, issue d'une lignée où elle connaît les usages de la cour, elle connaît aussi les meilleurs fournisseurs, elle est une protectrice des arts, comme vous le disiez,
oui.
Elle fait aussi en sorte que la mode s'instaure, et puis c'est la première dame dans le sens actuel et moderne,
oui.
Joséphine.
First
c'est
lady,
elle
oui.
qui va beaucoup subvenir aux besoins des nécessiteux,
c'est vrai.
Qui va faire des actions que l'on connaît aujourd'hui avec les pièces jaunes, finalement oui. Joséphine, c'est la première,
c'est
elle s'occupe justement du sort des gens qui ont le plus de besoin.
Et puis à la Malmaison, ça va être pour lui le repos du guerrier aussi. Voilà, il est voilà.
Complètement. Aussi. Malmaison, c'est ça, ce qu'on appelle la campagne, c'est-à-dire ce palais un peu à l'écart de Paris où il se repose, mais aussi il réfléchit à un certain nombre de structures ou d'éléments. Et puis surtout, c'est un grand lecteur.
Oui.
Vous avez
une
émission qui est là pour faire envie à nos amis auditrices et auditeurs de lire. Eh bien, Napoléon, c'est un gros lecteur, énorme. Et il va donner naissance ensuite aussi au mouvement romantique avec Stendhal, Chateaubriand, Hugo, qui vont s'en inspirer parce que c'est la même esprit, c'est le même esprit.
Oui. Mais de toute façon, c'est un personnage romanesque.
Complètement, il le dira d'ailleurs à Sainte-Hélène.
Quel roman que ma vie, tout à fait.
Tout est résumé.
Oui. Quels sont vos prochains projets concernant Napoléon et puis cet anniversaire du bicentenaire, David Chantrane?
Plusieurs livres, anthologies, travaux, parce que je pense qu'on n'a pas fini de redécouvrir les textes essentiels. Vous parliez des lettres de Joséphine, des textes de Sainte-Hélène. Enfin, il y a beaucoup de choses à redécouvrir. Et puis, il y a encore quelques épisodes qui, me semble-t-il, nous parlent encore aujourd'hui dans notre contemporanéité, finalement.
Et
travailler sur l'histoire, ce n'est pas se dire on travaille dans la poussière. Au contraire, c'est aussi donner des pistes et des réflexions pour ce que nous connaissons. Vous parliez tout à l'heure de la peste, et c'est tout à fait actuel.
Et
il y a des réflexions à avoir par rapport à ce que nous connaissons.
Oui. Et à Brienne-le-Château, des choses sont pensées, organisées pour le bicentenaire?
Oui, tout à fait. Nous avons un gros programme à la fois d'exposition, mais aussi de publication, d'accueil du public auprès des scolaires.
Oui.
Donc, il y a une grosse année qui se prépare et donc, nous invitons les auditrices et les auditeurs à participer. Il y a aussi une grande exposition qui est prévue à la Villette, une autre au Musée de l'Armée, à Waterloo, à Châteauroux, vous voyez. Donc, Napoléon, finalement, il nous parle encore aujourd'hui.
Complètement,
comme je vous disais, on peut faire le bilan et il faut vraiment le faire avec tous les éléments de réflexion pour comprendre un peu ce qui s'est passé il y a 200 ans dans notre France de l'époque.
Oui. Dernière petite question, David Chantrane, vous êtes déjà allé à Sainte-Hélène?
Oui, je suis allé à Sainte-Hélène en 2005.
Quelle chance!
À une époque,
Quelle chance.
Et à une époque où il n'y avait pas encore l'aéroport.
Oui, alors maintenant, bon, oui, c'est ce que...
Maintenant,
voilà,
il y a
c'est...
un aéroport, oui. effectivement, qui a été mis en place. Oui. Mais à l'époque, c'était un bateau et c'était 3 semaines de navigation.
Et maintenant, donc, l'avion va jusqu'où, alors? On fait à Paris?
En fait, vous allez jusqu'en Afrique du Sud.
Oui.
Et en Afrique du Sud, il y a un vol qui vous conduit à Sainte-Hélène.
D'accord, ok. Bon, ben voilà. Donc, j'espère qu'un jour, je réaliserai l'un de ces rêves, en tout cas.
C'est un lieu magique. Vraiment magique parce que, au-delà de Napoléon même, au-delà de Napoléon, c'est un lieu quand même perdu finalement, mais si extraordinaire, entre à 2500 km des côtes africaines et 3500 des côtes du Brésil.
Ouais.
C'était une prison naturelle, hein,
oui,
puisque s'échapper, il fallait vraiment être un très bon nageur, si vous permettez l'expression.
Oui, oui,
et,
ça, oui,
et donc, c'était un lieu qui était à l'époque sur la route des Indes, puisque avant que le canal de Suez ne soit réalisé,
donc,
on était obligé de contourner l'Afrique. Et donc Sainte-Hélène était une escale importante pour les bateaux qui partaient vers les Indes.
D'accord. Bien, écoutez, ça a été un véritable plaisir de vous recevoir, David Chantraine, pour votre livre Les 12 morts de Napoléon aux éditions Passé Composé. Vraiment, c'était passionnant et j'ai éprouvé un grand plaisir à discuter avec vous. J'espère que je vous retrouverai au micro de Délivrez-vous pour d'autres ouvrages.
Avec grand plaisir. Merci beaucoup de votre invitation.
Je vous en prie. Merci beaucoup. Les 12 morts de Napoléon aux éditions Passé Composé. C'était avec David Chantraine. Merci et prenez soin de vous. Merci.
Merci
au revoir.
Vous aussi.
Au revoir.